Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Des tirs de sommation sur la base militaire ukrainienne de Belbek, en Crimée. Dernière illustration des tensions qui règnent dans cette région autonome. Sur ces images, des hommes armés, sans signe distinctif sur leurs uniformes, font face à des pilotes ukrainiens.
C'était il y a presque 10 ans, la montée des tensions au Donbass, dans l'est de l'Ukraine. La guerre n'était plus qu'une question de jours. Avec l'appui des Russes, les séparatistes vont s'opposer à des soldats ukrainiens, alors peu aguerris. 10 ans plus tard, la Russie a annexé ces territoires, mais aussi la Crimée. Elle s'est surtout engagée depuis 2 ans dans un conflit encore plus meurtrier. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
J'ai beaucoup souffert de ce double drame. D'un côté, la mort de mon âme russe, de l'autre, la mort de mon rêve ukrainien. D'un côté, la douleur d'une population russe maltraitée, de l'autre, la douleur d'une population ukrainienne assassinée, agressée, violentée.
La guerre en Ukraine côté russe, la guerre vue du Donbass, ou pour reprendre les mots du Kremlin, l'opération spéciale. C'est le titre du livre écrit par Paul Gogo et publié par les éditions du Rocher. Paul Gogo est journaliste, il collabore notamment à Ouest France et à Libre Belgique. Bonjour Paul.
Bonjour.
Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass, un mélange d'analyse et surtout de reportage, puisque le 26 mai 2014, vous étiez dans le Donbass lorsque l'Ukraine a tenté de reprendre le contrôle par les armes de l'aéroport de Donetsk, occupé par les séparatistes. Vous aviez 23 ans. Comment est-ce que vous vous étiez retrouvé là ?
C'est une bonne question. Je me suis souvent posé cette question parce que c'est une somme de hasard un peu. Je me suis intéressé à l'origine à la Russie. J'ai découvert la Russie par un échange scolaire d'un côté et de l'autre, la journaliste Anna Politkovskaya, qui a ensuite été assassinée par le pouvoir russe. Et en fait, j'avais déjà cette passion du journalisme et donc j'ai un peu tout mélangé et ça a créé une situation dans laquelle je rêvais d'aller travailler en Russie. Sauf que quand j'ai fini mes études, il y avait Maïdan, il y avait l'annexion de la Crimée et je me suis dit, je vais peut-être commencer mon travail par l'Ukraine parce que c'était un pays intéressant aussi. J'avais eu l'occasion d'y aller une fois pendant 2 semaines, j'avais fait le tour de Kiev, j'avais découvert un peu la ville et je me suis dit, là, je suis assez curieux d'aller voir ce qui se passe là-bas. Sauf que j'arrive à Kiev. Maïdan étant terminé, il ne se passait plus grand-chose, plus beaucoup d'agitation dans le centre-ville. Et je vois sur Internet que des manifestations commencent dans le Donbass. Je ne connaissais pas le Donbass. Je me suis dit, allez, je prends un train de nuit, ça sera ma petite aventure. J'y vais 2 semaines, après je rentre en France et puis on verra ce que je peux faire là-bas. Sauf que j'arrive là-bas et en fait, la situation se dégrade très rapidement et je me retrouve à couvrir cette situation qui ensuite se développera en conflit armé.
Violent combat en Ukraine autour de l'aéroport de Donetsk. La bataille pour le contrôle de cet endroit stratégique, véritable point d'accès à l'est séparatiste, fait rage.
On l'entend dans ce reportage d'Euronews, c'est le déclenchement de la guerre entre Kiev et les séparatistes pour l'aéroport de Donetsk. Quel souvenir vous gardez de ce premier contact avec la guerre ?
Une journée très étrange parce que les Ukrainiens avaient annoncé l'heure du début de la guerre. Et donc, un matin, je m'étais levé un peu tard, je prends ma douche et j'entends des avions de chasse qui passent au-dessus de l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais avec d'autres freelances, d'autres journalistes indépendants. Donc, je sors de la douche, je vais à la fenêtre et je vois ces avions de chasse qui viennent en fait faire demi-tour au-dessus de Donetsk pour repartir vers l'aéroport. Et on voit de la fumée s'échapper de l'aéroport, on entend des explosions, on comprend que quelque chose se passe sur place. Et donc, les médias commencent à nous contacter, nous, les jeunes journalistes indépendants, on était tous très jeunes et très débutants. Et on se posait la question, comment aller couvrir ça? Parce qu'on était venu sans gilet pare-balles, sans casque. Moi, j'étais pas venu pour couvrir une guerre. Moi, j'étais venu pour voir à quoi les manifestations allaient mener, qui avaient lieu à Donetsk depuis plusieurs semaines. Puis on voit les informations sur Internet, et puis à un moment, je me dis, mais on peut pas juste rester à regarder ce qui se passe sur Internet, alors que c'est quasiment en face de nous. On voyait au loin, à 3-4 kilomètres, les fumées qui s'échappaient de l'aéroport. Et donc, avec nos amis, on a décidé de se rendre du côté de l'aéroport, donc dans un premier temps à la gare de Donetsk, qui est juste à côté de l'aéroport. Et là, on a voulu s'approcher un peu. Et c'est là qu'on a vu, moi j'ai vraiment ce souvenir d'avoir vu les deux premiers morts, qui à mon avis sont les deux premiers morts de ce conflit, et notamment une vieille dame dont voilà, la tête avait été touchée par une balle. Et je n'ai aujourd'hui encore, et à l'écriture de ce livre, je me suis encore posé la question, je n'ai toujours aucune idée de comment cette femme est morte, parce que la vie continuait tout autour. De l'autre côté de la gare, on entendait bien les tirs d'artillerie, on voyait bien que la guerre commençait. Mais je pense qu'il y a eu des balles perdues ce jour-là et que ça a dû tirer à peu près de tous les côtés, que c'était vraiment la panique. Et il y a eu d'ailleurs des situations où les séparatistes se sont entretués parce que tout le monde se ressemblait un peu. Et donc un camion plein de soldats qui circulent dans une rue, si vous ne savez pas si ce sont les Ukrainiens ou de votre camp, dans le doute, vous tirez. Et il y a eu beaucoup d'erreurs de ce type-là dans les premiers jours du conflit.
Qu'est-ce qui motive alors les séparatistes ?
C'est dur à déterminer parce qu'il y a d'un côté une crainte légitime, et elle m'a toujours parlé, cette crainte-là, d'une population qui a un esprit, une culture assez loin de celle des Européens. Une population nostalgique de l'URSS, on va en arriver très directement à ces fameuses grand-mères du Donbass. Ces grand-mères, elles vivent dans une région qui était glorieuse au temps de l'URSS, les usines métallurgiques, les mines, elles étaient connues dans toute l'URSS et tout s'est effondré, on connaît l'histoire, tout s'est effondré d'un coup à la chute de l'URSS. Et forcément, les gens l'ont mal vécu. Enfin, il y a une misère, il y avait un côté miséreux à donner à ce qu'une population qui avait été victime de la chute de l'URSS. Et donc, quand on leur a raconté Maïdan, la révolution de Maïdan à Kiev, par le prisme de la propagande russe, qui était assez diffusée et développée dans cette région-là, on comprend qu'il y a eu une différence de point de vue culturel entre les deux et que ces personnes se sont inquiétées qu'on les sépare de la Russie, qu'on les éloigne de la Russie, et une incompréhension totale de tout ce qui se passait à Kiev. Donc il y avait ça d'un côté, et puis de l'autre, on a quand même vu ces fameux mineurs du Donbass dont la Russie nous expliquait qu'ils étaient en train de mener leur propre révolution, leur Maïdan régional, qui sont sortis de leur garage avec des tanks et des kalachnikovs du jour au lendemain. Donc on a compris que la Russie avait en fait organisé une partie de ces rassemblements, une partie de la déstabilisation. Et donc c'est un mélange des deux. En fait, la Russie s'est appuyée sur un terreau bel et bien présent pour déstabiliser la région.
En 10 ans, vous êtes allé plusieurs fois dans le Donbass, hein, resté longtemps fermé d'ailleurs aux journalistes étrangers. Vous avez fait pas mal de rencontres, des séparatistes convaincus, d'autres déçus, des gens qui espèrent également le retour des Ukrainiens. Et donc ces grands-mères, ces babouchkis, elles sont faciles d'accès ?
Elles sont très étonnantes parce qu'elles se retrouvent vraiment au cœur de cette situation. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'elles en sont un peu la cause. Enfin, c'est-à-dire qu'elles ont contribué à ce que la situation dérape et à ce que la guerre arrive dans leur région. Et en même temps, elles en sont les premières victimes. Pourquoi elles y ont contribué ? Parce que justement, elles étaient très perméables à la propagande russe et elles se sont vraiment senties en danger. Donc elles se sont retrouvées en première ligne pour aller manifester contre les Ukrainiens qui soutenaient Maïdan et donc pour la Russie. Et je précise d'ailleurs rapidement que je parle de grand-mère et pas de grand-père, parce que dans cette région-là, les grands-pères meurent assez jeunes, étant donné leurs conditions de vie.
Et l'alcool aussi, si j'ai bien compris.
L'alcool, voilà, la vie dans la mine qui, des fois, est liée aussi à leur consommation d'alcool derrière. Donc, ces grand-mères, elles se sont retrouvées au premier plan. J'ai assisté à des situations incroyables. Elles étaient tellement perméables à la propagande que j'ai ce souvenir d'une grand-mère dans le centre de Donetsk avec une fourche à la main et qui courait au milieu d'un boulevard en disant « je vais chasser les nazis ». Et les nazis en question, c'était des Ukrainiens de Donetsk aussi et c'était la dernière manifestation de pro-Maïdan de l'époque. Et ces Ukrainiens, c'était des professeurs, c'était des gens de culture. Enfin, et évidemment qu'ils n'avaient rien à voir avec des nazis, mais elle en était convaincue et elle voulait les chasser avec sa fourche. Donc, elles y ont contribué comme ça. Elles ont permis, dans certains villages, à ce que les tanks russes entrent sans problème, en tout cas les tanks séparatistes entrent sans problème dans leur village. Elles ont repoussé aussi ou empêché l'armée ukrainienne d'avancer dans d'autres villages. Et en même temps, elles en sont les premières victimes parce qu'une grand-mère, on ne la déloge pas de sa maison. Elles ont toute leur vie dans leur maison. Et donc, même quand la ligne de front arrive au niveau de leur maison, elles ne veulent pas partir. Ça fait partie de ces gens que vous rencontrez. Vous leur dites, là, ça va être dangereux. Et ils disent, oui, mais vous voulez que j'aille où? Je vais rester ici. J'ai toute ma vie. J'ai vécu ici avec mon mari. Mes enfants ont été élevés ici. Et donc, elles en sont les premières victimes. Parce que quand la guerre arrive dans leur jardin, voilà, elles sont rapidement touchées plus que les autres.
Les nazis. Je hais ces gars-là.
Vous avez vécu, vous, ces 10 ans de guerre côté russe. Et ce qui ressort aussi de vos discussions, de vos rencontres, c'est le sentiment, vous en parliez, pour beaucoup de pro-Poutine, que l'Ukraine est infestée de nazis. Vous êtes même fait traiter de nazis par 3 vieillards. Ils y croient vraiment ?
Plus que 3 vieillards, mais au bout du compte, ça arrivait souvent. Parce que à cette époque, en 2014, on parlait souvent anglais avec les collègues, parce qu'il y avait plein de nationalités qui étaient présentes à Donetsk. Donc juste parler anglais, ça faisait de nous des nazis, généralement. Alors, à Donetsk en 2014, oui, parce qu'il est vrai qu'au premier rang de la révolution de Maïdan, quand tout a dérapé à Kiev, il y avait des nationalistes, des ultranationalistes, certainement aussi quelques brochettes de néo-nazis, et que la propagande russe a amplifié tout ça, mais ces gens existaient bien. Que les premiers bataillons qui ont été créés par l'Ukraine, qui étaient dépourvus d'une armée solide, c'était les plus motivés. Les plus motivés, c'était sans surprise les ultranationalistes, qui eux étaient prêts à prendre les armes pour défendre leur territoire. Mais pour autant, ces grand-mères, elles n'ont jamais été en contact avec ces personnes. C'est-à-dire qu'elles voyaient ça dans la propagande, dans les médias. Mais évidemment, elles n'ont jamais rencontré ces gens-là. Et donc, ça a donné naissance à plein de rumeurs et qu'elles diffusaient abondamment. Mais parce que c'est comme tout, quoi, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous ne connaissez pas les gens que vous avez en face et qui vous sont présentés que sous le prisme de clichés, mais qui, encore une fois, pour certains, il y avait de vrais radicaux dangereux côté ukrainien, mais qui, pour certains, ne correspondaient pas à la réalité, eh bien, vous avez peur. Donc, cette crainte était réelle. On leur expliquait qu'ils allaient venir tuer leurs enfants, que les nationalistes de Kiev allaient débarquer en bus, empoisonner l'eau de la ville. Enfin, il y avait vraiment plein de rumeurs qui sont, je pense, des rumeurs urbaines qu'on a déjà entendues dans plein d'autres conflits, dans plein d'autres situations, mais qu'on a retrouvées dans celui-ci. Donc voilà, mais ça, c'est pour les gens du Donbass. Les Russes, pour le coup, ont certainement une autre vision des choses parce qu'eux, ils sont encore plus loin de tout ça et qu'on leur parle de nazis ukrainiens, c'est quelque chose de très, très flou pour eux.
Les Russes ne dansent pas, le Russe ne sourit pas, les paroles de la chanson Sladkij Vatnik du groupe punk Sonic Death. Le terme de Vatnik revient dans votre livre, Opération spéciale. Mais c'est quoi au juste un Vatnik ?
C'est un mot qui vient d'une espèce de veste qui était portée avant par des prisonniers, en tout cas une certaine catégorie sociale. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui, alors l'usage de ce mot et la signification de ce mot a évolué, mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui va qualifier quelqu'un qui est perméable à la propagande et qui va la répéter. Cette propagande, elle la diffuser. Donc, c'est un mot qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Les gens se traitent de Vatnik entre eux. Et il y a ce mot-là, moi, alors qui est intéressant, mais moi, j'aime aussi le terme de zombie parce que ça correspond, enfin, c'est une petite nuance, ça paraît insultant et c'est effectivement pas un mot que je peux utiliser dans des reportages, mais qui correspond à une réalité où je tombe parfois sur des gens qui vont me m'asséner de propagande, mais avec un grand sourire. Et en fait, leur visage va soudainement se transformer, et pour moi, c'est ça la zombification, où avec leur grand sourire, qui va devenir donc glaçant, ils vont commencer à me menacer, enfin, pas me menacer moi, mais à dire, vous les Français, on va vous balancer une bombe nucléaire et vous allez moins la ramener. Enfin, et en fait, vous allez rencontrer donc quelqu'un d'adorable qui va vous donner son point de vue sur les choses, et soudainement, son visage se transforme, devient glaçant et vous sort quelque chose comme ça. Et c'est très... C'est quelque chose qui relève de la radicalisation, je pense, et qui est lié à la façon dont la propagande fonctionne.
Et les Vatnik semblent très nombreux en Russie. La propagande de la télévision d'État fonctionne à merveille auprès d'une partie de la population peu éduquée. Sont à la Russie ce que sont les American Idiots, moqués en 2004 sous George Bush par le groupe Green Day, qui ne voulait pas voir les Américains devenir des idiots dirigés par un président stupide et une nation détestée sur le plan international. En Russie, on préfère dire que l'on ne fait pas de politique pour éviter les ennuis. C'est ce qu'expliquait une jeune femme russe à Paul Gogo. Comment voulez-vous vous lever le matin en vous disant que votre pays est horrible, qu'il agit de façon horrible, en sachant que vous n'y pouvez rien? Évidemment que vous faites l'autruche. Ceux qui vivent avec ne vivent plus. 2 ans plus tôt, le 15 février 2022, quelque chose ne va pas, écrit l'auteur d'Opération Spéciale. La Russie stationne plus de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne et la Douma russe a proposé à Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des 2 régions sécessionnistes. Ce jour-là, Paul Gogo est encore à Donetsk. Il se prépare à un réveil agité. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans un 2e épisode de La Story, le podcast des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.